Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 4, 3. L'exploitation du jeu. Dans mon dernier ouvrage, De l'angoisse à l'extase, 1926, tome 2, page 436-437, où j'ai analysé tous les sentiments, depuis l'angoisse la plus profonde jusqu'au bonheur de l'extase, j'ai essayé, sinon de présenter une théorie nouvelle du jeu, du moins d'attirer l'attention sur certains de ces caractères dont on n'avait pas assez tenu compte. Un trait essentiel du jeu qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jeu est amusant. Le jeu, quand il est réussi, amène une joie d'une nature un peu particulière, mais qui n'en est pas moins une joie avec tous les caractères de la réaction de triomphe que nous venons d'étudier. Le jeu procure le sentiment du succès, l'arrêt de l'effort avec le gaspillage dans tout l'organisme des forces mobilisées. Il procure l'augmentation des forces, le réveil des activités qui étaient somnolentes, faute de force, la récupération des souvenirs et des sentiments, les perfectionnements des actions et les inventions nouvelles. En un mot, le jeu nous procure tous les avantages d'une action réussie. C'est là, si je ne me trompe, le fait essentiel. Et c'est à cause de ce caractère essentiel que l'homme et l'animal se sont mis à jouer. Tous les êtres ont senti les avantages de la joie qui vient après la réussite des actions, et ils ont recherché ce succès et cette joie. Comme il arrive souvent dans les industries, le produit secondaire, accessoire, est devenu plus important que le produit principal. On s'est bien souvent désintéressé du résultat principal et primitif de l'action, du terme réel de l'alimentation, de la marche et de l'amour, pour ne s'occuper que du résultat accessoire de la joie produite par le succès de l'action, quelle qu'elle fût. Or, cette joie dépend de la réaction de triomphe et du gaspillage qu'elle détermine, des forces mobilisées pour l'action, et il faut prendre quelques précautions pour que ce gaspillage et cette joie puissent être réellement avantageux. Pour cela, il est nécessaire que toutes les forces mobilisées pour l'action ne soient pas toutes dépensées dans l'exécution de l'action elle-même. Parce que, même si on arrêtait l'action, il n'en resterait plus rien à gaspiller. Bien souvent, la victoire n'enrichit ni le vainqueur, ni le vaincu, puisqu'ils se sont tous les deux épuisés et vidés pendant la guerre. Pour que ces conduites puissent procurer un triomphe avantageux, il faut d'abord qu'elles soient économiques, qu'elles déterminent une dépense de force aussi petite que possible. Si vous voulez avoir des bénéfices en revendant un titre à la bourse, il faut commencer par ne pas l'acheter à un cours trop élevé. Pour économiser dans l'exécution de l'action, il faut en supprimer le caractère trop sérieux, trop réel, car c'est le réel qui complique la vie et qui exige des dépenses de force. Il faut une bataille où on ne tue pas, car tuer et être tué, c'est trop sérieux. Cela excite des tendances à la conservation de la vie qui ont de trop grandes forces et qui, mises en activité, nous ruinent. Mais cependant, il ne faut pas trop réduire l'action et lui enlever trop de réalité, car elle n'aurait plus d'intérêt et ne mobiliserait plus assez les forces de l'organisme. Et quand on ferait l'arrêt de l'action, il n'y aurait pas de gaspillage. Prenons comme exemple ces personnes qui jouent aux cartes. Quelquefois, elle se contente de jouer des haricots secs. C'est un procédé qui a l'avantage de ne pas dépenser. Mais il y a des joueurs qui diront « Non, si on ne joue que des haricots secs, je ne joue pas bien. Et quand je gagne, je n'ai pas de triomphe. » Cela veut dire « Je n'ai pas mobilisé assez de force et quand je gagne, je n'ai pas de gaspillage. » Mettez un sou pour avoir l'air de gagner de l'argent. Alors, cela excite mes tendances au commerce. Je mobiliserai des forces et quand j'aurai gagné, je serai beaucoup plus content parce qu'il y aura un gaspillage des forces. Il faut donc que l'action ne soit pas trop grave ni trop petite. Il y a des précautions à prendre et on a employé le mot « s'amuser » pour désigner ces triomphes en quelque sorte artificiels. Parce que d'ordinaire, le triomphe et les vraies joies surviennent après les vraies actions exécutées jusqu'à leur consommation réelle. Tandis qu'ici, le triomphe se produit avant la consommation véritable et sans les dépenses qu'elle réclame. Il s'agit d'un triomphe prématuré et préparé par des précautions spéciales. Or, ce sont tout justement ces précautions qui constitue le jeu. La règle du jeu de la bataille, c'est de ne pas se faire de mal, pour que les combattants ne dépensent pas trop de force dans l'attaque ou dans la défense. Nous avons remarqué que les jeux des adultes ne sont plus les mêmes que les jeux des enfants. C'est parce que les forces des adultes et des vieux ne sont plus les mêmes que celles des enfants. Cela fatiguerait trop les vieux de jouer à la balle ou au chat-perché. Ils ont transformé le jeu de la balle en un jeu de golf qui est plus calme. En même temps, on prend des précautions pour que le jeu reste sérieux. On joue des fiches, mais on imagine que ces fiches représentent des millions. Quand on fait jouer des enfants, on promet un gâteau au vainqueur et on lui décerne des félicitations. Le jeu, comme j'ai essayé de le montrer, est une exploitation intelligente du phénomène du triomphe qui termine les actions réussies. Les animaux et les hommes commencent par dépenser un peu dans une action bien organisée pour être aussi économique que possible, et ils tirent de la réussite de cette action facile tous les bénéfices possibles. Il y a ainsi dans la vie un grand nombre d'actions qui sont des spéculations de ce genre. Le sommeil, les cérémonies, les dîners, les boissons alcooliques et même, si j'ose le dire, les passions de l'amour. Toutes ces conduites sont des jeux et des spéculations plus ou moins heureuses. Il est bien probable que cette conduite bizarre qui n'existe pas chez l'animal primitif ni chez l'idiot a commencé d'abord d'une manière fortuite à l'occasion de ces trompe-l'œil dont j'ai montré l'importance dans la théorie des perceptions. Puis elle s'est développée à cause de ses grands avantages et elle a été recherchée activement quand se sont développées les régulations de l'action. Les animaux, puis les hommes, ont appris à jouer avec toutes les tendances, à tirer parti pour les triomphes prématurés de l'alimentation, de la boisson, de l'amour, du combat, de la parole, etc. Et toutes les conduites de l'art sont sorties de ce jeu perfectionné. Ainsi entendu comme une exploitation du triomphe, le jeu s'introduit dans toutes les fonctions psychologiques. Et cette recherche de l'enrichissement facile, de l'excitation, transforme la conduite. Le fait de savoir jouer est un fait vraiment intelligent. C'est un moyen d'augmenter nos forces et de les augmenter naturellement par un développement de l'organisme. C'est un des éléments de l'évolution humaine. C'est pourquoi ce jeu va intervenir dans la création de toutes les fonctions supérieures. Et l'homme n'est arrivé à la science et à la philosophie que parce qu'il savait jouer.